comment dire, découvrir ce cela. Et cette image qu'emploie Judas Lévi dans Pilarie, qui n'est pas simplement une image, certainement vous l'avez entendu de Benoît, c'est que de la même manière que chaque vigne, dans un vin différent, suivant le coteau où elle est plantée, okay, ça c'est une image très française, bien les hommes c'est comme ça. Les hommes c'est comme ça, chacun a son terroir, chacun a son terreau. Okay. Bon, en ce qui concerne le peuple juif, notre terroir d'origine, c'est cette terre-là, c'est le Tchnan, le Tchisraël. Et pendant 2000 ans, nous étions des arbres transplantés de la pépinière et à l'endroit où il y a des pépins. Dans les tuteaux de la Gola. Et à partir du moment où un arbre ne sait plus qu'il est transplanté, hein, alors il sait qu'il est devenu pauvre. C'est ça le problème. Et, en d'autres termes, si j'interprète ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que le juif ne peut vivre en exil que s'il sait qu'il est en exil. S'il oublie, s'il sait qu'il est en exil, alors son identité se fait. Ça prend du temps, c'est sûr. Je vous dis, la règle classique, c'est 4 générations qui gardent son alliance aux enfants et aux petits-enfants, des petits-enfants, jusqu'à 3 et 4 générations, vous connaissez le verset. Okay. Mais il y a aussi ce fait que ça peut se conserver 1000 générations, on ne sait pas comment. Et subitement, vous avez d'une lignée perdue depuis très longtemps, quelqu'un vient et dit, je suis ici. Il y a 4-5 ans, il y a une jeune femme de Bretagne qui est arrivée ici, et vraiment, on aurait dit âme de Bretagne, vraiment une bretonne de 100%. Hein, on m'a envoyé le voir parce que je parlais français, j'avais coupé, je lui ai dit, moi je suis ici. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire pour eux? Et je lui ai raconté son histoire, je ne l'ai pas cité, mais je lui ai raconté son histoire. Elle était en voyage de tourisme, de groupe, avec, je ne sais pas quoi, le club méditerranéen, je donne un peu le club méditerranéen, en Grèce. Et puis finalement, une bande du groupe du voyage a décidé, puisqu'il y avait 3 jours de confesse, je ne sais pas pourquoi, qu'il y avait un bateau qui arrivait à Haïfa, de venir faire un petit tour en Israël. Elle m'a dit, dès que j'ai été à Haïfa, je me suis senti bizarre, et puis finalement, il est arrivé à Jérusalem, et je suis sûr que je suis. Je ne croyais pas qu'une réclamation de contrat, ça sort des reins, ça sort de l'identité profonde. Et vous l'auriez vu comme ça, c'était la princesse Anne de Bretagne en sabot. Elle m'a marché très familier, comme ça, elle avait une gamme. Moserne, se disait, mais enfin. Et puis alors, elle a pu bouger du pays. Et puis, bon, elle est devenue juive, elle est devenue israélienne, elle vit comme une juive, comme ça fait 3000 ans qu'elle est juive. Alors, vous voyez, ça ressurgit en terre droite. Je ne vous ai pas dit, c'est sûrement une descendante de gens, c'est rien, mais il y a quelque chose comme ça. Et puis, ils sont un peu multipliés par la vie. Et alors, donc, il y a ces cas exceptionnels. Mais la règle, c'est celle-là. À partir du moment où quelqu'un quitte cette indifférenciation d'identité hébraïque, vous vous rappelez que Abraham devait se débarrasser de la spécificité Abraham pour devenir Abraham. Vous vous rappelez de ça, hein? De la même manière, si jamais Abraham retrouve une spécificité particulière, il n'est plus Abraham. Vous voyez la différence. Et alors, je veux dire encore un autre niveau. Ceux surtout qui ont été dans les mouvements de Najus, vous savez ça. Quel est le sujet bateau, tarte à la crème, sempiternel et éternel, des sacrifices dans les mouvements juifs? Qu'est-ce que il a marqué ça? Je voudrais faire une thèse là-dessus. Vous imaginez le nombre de réunions que j'ai eues avec des chefs de patrouille, des chefs de dignité, enfin de plouga et tout ça, aux élites, ça c'était le sujet. Parlons de l'humain. Jamais on a voulu parler le judaïque, on parlait du judaïque. Vous connaissez ces histoires, après, rappelez-moi de quoi j'étais parti. Avec quelqu'un, je vais dire tout de suite. Vous ne trouverez jamais dans le mouvement de Genève, Goy, en France, en Angleterre, ailleurs, des certitudes comme ça, qu'est-ce qu'un français? Ça n'existe pas un sujet pareil. Un français confronté, il se connaît, il sait qu'il est bien adapté à son état, il est juif. Il n'y a que les juifs qui demandent qu'est-ce qu'un juif. Un jour, j'ai assisté à une réunion du de l'Union des étudiants, c'était en Belgique d'ailleurs, l'Union mondiale des étudiants, sur ce sujet, et c'était au moment de l'affaire congolaise. Mais vous n'avez aucune idée que ça, à quel point ça ressemblait à un problème congolais. On ne connaissait pas le vocabulaire au moment de. On est pas dans ce Congo belge. Non, les palabres tribales de l'indépendance du Congo, c'est la théorie. Alors, il y avait les techniciens, parce qu'on était en traduction simultanée, il y avait des dans tous les pays. Les techniciens belges, ils étaient affolés. Mais qu'est-ce que ces gens-là? On a passé deux jours à se demander qu'est-ce qu'un juif. Et chaque faction idéologique, anglais, les autres, en fait, les techniciens belges, ils viennent du monde entier. 48 heures pour se demander qu'est-ce qu'ils sont. À un certain moment, je crois que quelqu'un, peut-être moi d'ailleurs, a dit, mais ça ressemble à une assemblée congolaise. Alors ils ont éclaté la vie à la technique. Bien, voilà le problème. Mais voilà l'histoire que je vous raconter à cause de cette habitude de nous. Parlons de Joseph. Et si on parlait de judaïsme directement, vous voyez, il y a un problème d'identité profonde qui est le cas particulier de la société juive parce qu'elle est indifférenciée. Est-ce que c'est clair? Tous les juifs savent que ce sont fondés sur le même bateau. Quelle que soit la manière de se définir comme juif, il y a un verset qui dit Bani Matel, Machem et Lokrechem, Al-Bigolé. C'est-à-dire, vous êtes tous les enfants du même Dieu. Ne vous séparez pas en Agouda ou Agouda, ça veut dire en sec. Tous les patrons, vous êtes de Reuven, c'est Israël, vous êtes de Shimon, c'est Israël, vous êtes de Lévi, c'est Israël. De quelque chapelle que vous seriez, de capelle ou pas chapelle, de quelque kippa que vous seriez, vous êtes Israël. Alors ne faites pas des sectes. Il faut être un sec. Et il y a, si vous voulez, cette perplexité. Okay. Parce qu'il n'y a pas de définition possible pour répondre à cette question qu'est-ce qu'un juif. Parce que ce n'est pas une parmi les nations. Il y a une indifférenciation. Voilà ce que je voulais dire de façon très précise. Tous les juifs savent que quelle que soit la définition qu'ils se donnent d'eux-mêmes ou qu'on donne d'eux-mêmes, ils sont dans cette histoire-là et que c'est impossible de faire autrement. Okay. C'est une illusion de croire à la chaîne du Dieu qu'on peut quitter l'identité juive. Mais enfin, cette illusion peut durer 4 générations. Et alors, on raconte l'histoire juive suivante, qui est vraiment très authentique. C'est un midrash profond. Dans une communauté évoluée, qui avait besoin d'un rabbin, alors on a fait venir plusieurs rabbins pour concours, et chacun, un vendredi soir, à son tour, devait faire un sermon. Le rabbin qui a demandé au président, pourquoi je dois leur parler? Ah, j'ai choisi le sujet. Alors, il dit, je vais parler du Shabbat. Ah non, c'est vrai, ils ne sont pas tellement pratiquants du Shabbat. Si vous leur parlez du Shabbat, ça va les choquer. Parlez d'un autre sujet. Il dit, bon, je vais leur parler de la cachoute. Vous savez, de la cachoute, ils ne mangent pas tellement que ça. C'est pas tellement leur parler. Alors, je vais leur parler des mariages. Ils disent, ouh, j'avais déjà dit, il y a beaucoup de mariages. Alors, ne parlez pas de mariages. Ah, il dit, alors, de quoi voulez-vous que je parle? Enfin, les gens de judaïsme. On va leur parler du judaïsme, mais on leur dira jamais de quoi il s'agit. C'est à peu près cette histoire-là. Alors, revenons à notre.
On peut dire, par exemple, que, au temps de Mosia, le juif pourra retrouver sa vraie identité, parce que le judaïsme sera lui-même fixé. Est-ce qu'on pourra, disons, sortir de ces règles de cachoute? Est-ce que les règles de cachoute seront abolies?
Tu ne vas pas laisser un peu de travail au Mashiach. Il décidera. J'ai très bon. Ce sujet, on l'abordera beaucoup plus tard. La prérogative législative du temple du Mashiach commence par la halakha, c'est la prérogative du Mashiach. On ne peut pas savoir à l'avance ce que sera la Torah du temps du Messie. Mais peut-être qu'il y a là un principe général, mais ne l'applique à aucun détail en particulier, qu'un certain nombre de mitzvot qui sont impératifs pendant tout le temps de la constitution d'identité se résolvent à partir du moment où cette identité est atteinte, est acquise. Tu vois ce que je veux dire? Je reprendrai d'ailleurs ce point lorsqu'on étudiera les règles des détails. Je vois qu'on aura besoin encore demain pour la on va s'appeler comme une approfondie. Ok, mais rapidement, hein.
Oui. C'est à propos de la définition des animaux qui sont d'or ou damés. Vous avez dit que les animaux taurines, à part qu'ils sont dans la limite d'évolution, c'est-à-dire que c'est des animaux en or, qui sont susceptibles d'avoir une évolution.
Ceci est théorique, après je vais parler de ça.
N'y a-t-il pas un danger là de se trouver devant la question suivante, pourquoi admettre cette relative évolutionnisme chez les animaux et non pas chez l'homme?
Et pourquoi ne pas l'admettre?
Mais dans la mesure où le plus enseignement des naissances, y compris l'avancement que nous avons reçu jusqu'à aujourd'hui, nous sommes des données à d'âme, les enfants, enfin les
bébés. Je vous donne un exemple, Mais ça je vais aborder tout de suite ce thème-là pour la demi-heure qui nous reste. Peut-être on reprendra encore demain. Je vous donne un exemple. Un enfant naît son premier jour, sa première semaine. Il est un enfant, il est un petit homme. Mais pourtant, il a toute une histoire. Il va grandir, il va se transformer, il va changer. Il va évoluer jusqu'à l'âge adulte. Mais c'est lui qui évolue, c'est cette identité-là qui évolue. Est-ce que tu comprends ma réponse?
Au titre individuel, oui, à titre de carrière.
Écoutez, reprenons ce registre. Je ne veux pas trop accuser le vocabulaire, mais ce registre, la différence d'identification de manière d'être homme entre le peuple d'Israël et chaque nation en particulier, c'est la même chose. Ça veut dire que les nations sont arrivées à rejoindre leur modèle et il n'y a plus qu'une histoire sans changement, sans ridouche, plus exactement. Il n'y a plus rien qui change. Tandis que Israël est resté dans la ligne indifférenciée qui porte l'avenir de l'histoire. C'est pourquoi Israël traverse l'histoire des civilisations qui, elles, n'ont plus qu'une histoire de temps et non pas de durée. C'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure. J'ai parlé trop. Et ça, j'en suis intimement persuadé. Quand je vous dis très souvent, moi je me relis à la culture française du point de vue de. C'est ce visage de l'universel humain que je connais. Le modèle français est à mon sens, un modèle, lorsqu'il est dans sa pureté, de très haute valeur de culture, mais il est achevé. Et puis, un Français est un Français définitivement. Il est sous les sept manières d'être homme et pas une autre. Okay. Elle n'a plus d'histoire. Une fois qu'elle a atteint sa spécificité, elle n'a plus d'histoire. Le drame de la conscience européenne en général, l'Europe n'a plus d'histoire. Mais disons, le drame de la jeunesse en France, que ça se formule court pour la France, c'est qu'il n'y a plus de dimension de conscience historique. Okay. La jeunesse du XIVe siècle, la jeunesse du XVIIe siècle, était d'espérance. Depuis que le modèle français a été achevé, la conscience de la jeunesse française est une conscience tragique, une conscience désespérée, une conscience, sans espérance. Okay. Ça vous explique, j'ai une fois parlé de ça très rapidement, ça vous explique pourquoi cette jeunesse européenne en général, mais je prends le cas de la France que nous connaissons, cherche à s'indexer à d'autres sociétés du monde qui ont leur avenir devant eux. C'est une espèce de fascination des sociétés décolonisées du tiers-monde sur la jeunesse européenne ne s'explique que par là. On cherche à avoir une histoire ailleurs parce que chez nous, il n'y a plus d'histoire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tout. Les mots successifs, on a été successivement cubain, maoïste, Che Guevara et Bernard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un phénomène extrêmement profond. Je pense que vous l'avez diagnostiqué par vous-même. Bien. C'est-à-dire, voilà, je vais citer un verset de l'Église qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau chez les Gaulois. Quand on a connu l'histoire d'une civilisation gaulle, on les a connues toutes. C'est une différence de style, mais c'est comme ça que ça se passe. Une naissance, une apogée, un déclin, une disparition remplacée par une deuxième civilisation qui a naissance, apogée, déclin, disparition comme l'année du soleil. Okay. Alors que le renouvellement perpétuel, ça n'y a pas sous le soleil. Ça n'y a pas dans le temps du soleil. Le renouvellement perpétuel ridouche, plein de renouvellement. C'est un peu cela. C'est-à-dire qu'il y a une manière très particulière d'être homme. Elle est différenciée. Voilà. Il faut voir les choses vraiment en grande proportion. L'identité juive est un cas particulier de l'histoire humaine qui ne supporte pas, qui n'accepte pas, qui refuse la différenciation. Alors, elle a pris une dimension déterminée. Je reviens à la formule, nous étudions ça avec l'histoire de Moïse. Je reviens à la formule de tout à l'heure. Inadapté pour rester adaptable à n'importe quoi d'éventuel. Réfléchissez bien, c'est un juif. Et quiconque, n'importe quel homme, né n'importe qui, de n'importe quel peuple, est comme ça, c'est un juif. Alors il rejoint. Et est-ce que c'est clair? C'est ce qu'on appelle les racidés au moteur.
Si je veux. J'ai très bien appréhendé ce problème et m'identifie assez bien avec ça. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'on s'entraînait sur le plan de l'évolution. Si on l'intègre dans l'animal, comment
Mais non, je vous ai dit plusieurs fois, j'emploie ce vocabulaire par analogie et que j'y viens. Alors je vais faire ce tableau très rapidement pour que ce critère-là soit bien précis, mais il faut quand même qu'on avance dans les autres lois. Voilà quel est le schéma, grosso modo le schéma de l'évolutionnisme classique. Sachez que c'est très compliqué, parce qu'il y a différentes écoles. Lamarck, c'est pas Darwin, c'est pas De Vries, le mutationnisme, c'est pas l'évolutionnisme lamarckien. Vous comprenez, ce sont des écoles différentes. En fait, le schéma très schématique de la façon de penser, ça va être à peu près celui-ci. Dans la coordonnée des espèces, qu'à partir d'une certaine souche, il y a des déboîtages différents d'une espèce se déboîtant d'une autre. Okay. L'évolution. Par exemple, à un certain moment, tout ce que je dis est ici très schématique, parce que les évolutionnistes conséquents ne pensent pas que l'homme vient du singe. Je pense que le singe est un dérivé d'une souche ancienne, tout sur aussi d'or, et que ce serait plutôt d'un petit animal qui s'appelait le Lémurien, qui l'appelait sur les arbres. Mais vous voyez quel est le schéma général. On arrive à ordonner une ligne de développement morphologique des squelettes, etc., au niveau des fossiles. Okay. Au niveau des fossiles, c'est-à-dire on trouve les fossiles. C'est-à-dire qu'entre les espèces vivantes actuellement, on trouve des traces de squelettes qu'on peut reconstituer qui montrent des formes intermédiaires. Et on peut les classer. Okay. Vous voyez ce que je veux dire. Et alors, l'hypothèse, c'est cette ligne-là. Ça, c'est l'observation. Et cette observation, nous allons la garder comme étant le fait de la vérité. Les fossiles, moi, je les ai étudiés pendant 2 ans. Okay. Et alors, on peut classer toutes les choses intermédiaires d'espèces disparues. Okay. Qui étaient des choses d'influence, quand les mathématiques comprennent ce que je veux dire. Alors l'hypothèse, c'est qu'on classerait la ligne historique de l'évolutionnisme comme ça. Par exemple, jusque-là, c'était, je ne sais pas quoi, la gazelle. Okay. Et puis, mutation, un long coup, la girafe. Et la girafe serait sortie de la gazelle. Une gazelle devenue girafe. Vous voyez? Okay. Voilà, limite, bon, en schématisant, de tel singe est sorti un homme. Il y a énormément d'objections, et logiques, et historiques, et scientifiques là-dessus. Ils sont tellement conditionnés par leur hypothèse, ils tiennent tellement à se considérer comme des animaux modifiés qu'ils n'arrivent pas à entendre. Mais je vais vous donner une série de choses. Donc, l'hypothèse serait la suivante. Un loup, un singe, est devenu homme. Bon. Et ils appellent ça un fait scientifique expérimental. En réalité, c'est une hypothèse explicative de cette série de squelettes. Donc, je l'appelle, je rejette. Un jour, un singe est devenu homme. Pourquoi ça continue pas? Pourquoi on ne voit plus expérimentalement un singe devenir un homme? D'où ça sort? Vous voyez? Donc il faut restituer par hypothèse des circonstances différentes de la réalité actuelle. Et j'ai appris d'ailleurs cette théorie là-dessus, une de ces théories, qui dit que. Qui dit par exemple qu'il y a de toute façon on a besoin d'énormément de temps pour rendre compte de cette hypothèse, d'où le principe des milliards d'années de l'existence du monde, parce qu'il faut beaucoup de temps pourquoi des choses infinitésimales se passent et arrivent à rendre compte de mutations globales, vous comprenez ce que je veux dire ? Mais tout ça, comprenez bien ce que je veux dire. Il y a les faits de l'observation, il y a les hypothèses explicatives. Tout ça, ce sont des hypothèses. Et ce sont des hypothèses pleines de contradictions, d'invraisemblances. Mais on est tellement conditionné par l'hypothèse globale que l'homme est un animal modifié qu'on n'entend pas les objections. En parlant du même donné de l'observation, les hypothèses explicatives sont très différentes. Un véritable savant authentique ne prend jamais une hypothèse pour une loi. Une hypothèse, une hypothèse. Est-ce que c'est clair ? Mais laissez-moi parler jusqu'au bout, parce que c'est un peu. Et alors, par exemple, une des explications, c'est que une planète qui a disparu et qui avait des rayons cosmiques provoquaient des mutations par radiation, de type radiation atomique. Et puis maintenant, donc, ça a fait souche. Je vais vous prendre l'hypothèse lamarckienne. Un singe mieux adapté que les autres devenu homme. Et comment se fait-il que les singes non adaptés sont restés singes ? Vous voyez, tout ça est plein de difficultés. Mais ce n'est pas ça qu'on va étudier en détail. Retenez que c'est une hypothèse explicative. Parce qu'on a découvert un phénomène d'observation. On peut classer les fossiles. Alors, quelle est l'hypothèse explicative qui rencontre les différents des fossiles ? C'est ça le problème concret. Okay ? Alors, vous voyez quel est le schéma explicatif de l'évolutionnisme en général. Suivant qu'on fait appel à un accident extérieur qui provoque une mutation, ça c'est plutôt Darwin. Suivant qu'on fait appel au principe d'adaptation, c'est plutôt Lamarck. Okay ? Eh bien, et ça veut dire qu'une espèce est émoitée de l'autre. Et que l'espèce ancienne a continué à exister. Okay ? Et que simplement les stades intermédiaires ont disparu. Et puis alors, on les retrouve sous forme de fossiles. Enfin, très, très schématique. C'est clair ? C'est ça l'évolution. Le schéma de la Torah est tout à fait différent. En tout cas, habituez-vous déjà pour aujourd'hui à comprendre ce principe-là. Le schéma de la Torah est le suivant. C'est-à-dire qu'à partir d'une capacité de la Terre elle-même de donner le corps vivant, et là je parle du corps, okay ? À partir d'une capacité de la Terre de donner le corps vivant, eh bien, il y a eu différentes tentatives. Là, je vous remets l'observation des fossiles classés. C'est la même coordonnée, ok ? Mais vous verrez que le niveau des explicatives est radicalement différent. Ici, qu'est-ce qui apparaît ? Il apparaît cette ligne-là. Une espèce de déboîtement linéaire. Et donc, en fin de compte, ça voudrait dire, sur ce signe-là, que l'homme serait issu d'un animal modifié. Ça, je reste sur ce schéma-là. Ici, l'hypothèse de la Torah, et l'hypothèse explicative de l'enseignement de la Torah, c'est qu'à partir de la capacité vivante de la matière du monde, et là, il s'agit des corps, pas de la vie intérieure de ce que nous appellerons l'âme, hein, mais une différente tentative. L'une est arrivée jusque-là, et c'est bloqué là. Une autre est arrivée jusque-là, et c'est bloqué là. Une autre est arrivée jusque-là, et c'est bloqué là. Et puis en fait, quand une autre est arrivée jusque-là, elle ne s'est jamais arrêtée là. Alors vous voyez qu'il y a un schéma tout à fait différent. La ligne est la même, le fait est le même, mais l'hypothèse explicative n'a rien à voir. Okay ? Chaque espèce a eu son histoire. Et j'en arrive à une son histoire qui l'a mené jusqu'à un certain point par rapport au projet de l'être vivant achevé. Alors, je vous donne maintenant deux formules qui vous permettront de comparer ces deux schémas. Vous comprenez bien ce que je dis avant les choses. L'observation est la même, mais l'explication est radicalement différente. Alors, ne prenez pas une explication pour la réalité. Je veux dire que, au nom de la Torah, je vais nier cette diagramme-là. Ça ne veut pas dire que je nie ça. Je nie la manière de l'expliquer. C'est-à-dire que je ne nie pas qu'il existe des fossiles. Je les ai étudiés, là, je les ai étudiés. Mais ce que je mets en question, c'est la manière de l'expliquer, ce qui procède d'une toute autre mentalité. Alors j'explique maintenant ce schéma. Première formule, c'est pas que l'homme est un animal qui est devenu homme. C'est que l'animal est un être vivant qui n'a pas réussi à arriver au stade de l'homme. C'est l'inverse, exactement. Mais comme c'est simple, c'est la même chose, sauf que c'est tout le contraire. C'est-à-dire, telle espèce animale X va arriver jusque-là, la belette, et elle s'arrête là. D'abord, nous. Telle autre va aller jusque-là, le lapin. Mais ce n'est pas que le lapin est une belette qui a eu le lapin. C'est que le lapin est un être vivant qui ne s'est pas arrêté à être belette. Il est arrivé jusqu'au niveau du lapin. Lui, son embryologie. On arrive à une même formule. C'est la raison pour laquelle, dans les stades évolutifs de l'embryon, chaque espèce plus évoluée récapitule les stades antérieurs. Mais ça veut dire qu'elle ne s'est pas arrêtée à cette vitesse. Elle est allée plus loin. C'est vrai ? Oui, c'est formidable. Qu'est-ce que c'est que l'animal ? C'est un être vivant qui n'est pas arrivé jusqu'à l'homme. Et non pas que l'homme serait un animal devenu homme. C'est tout le contraire. De la même, deuxième formule, c'est l'embryologie récapitule la préhistoire. Okay ? Nous sommes dans les stades embryologiques. L'embryologie récapitule tous ces stades où nous ne sommes pas arrêtés. Okay ? Est-ce que c'est bien clair ? Bon. Alors, ça signifie, bien évidemment, qu'à partir du moment où l'homme émerge, le premier homme, son histoire commence et il doit devenir le fils de l'homme. Et cette évolution se passe à travers Israël. Les autres embranchements, c'est les embranchements différenciés. On s'est arrêté là. À quel tel. Bon, je peux dire si tu as bien compris que j'ai retourné la question. Que c'est dans le cas, cela qu'il faut comprendre. Qu'à partir du Adam Arishon commence un engendrement qui doit mener au Benin. Et ce que je vais expliquer dans cette analogie, c'est que précisément les goïms, c'est-à-dire les nations, les différentes manières d'être homme spécifiques, sont ceux qui sont arrêtés quelque part dans une manière d'être homme spécifique et ne sont plus dans cette ligne centrale qui mène au fils de l'homme. Et d'ailleurs, prenez le phénomène christianique, toutes les nations européennes, pour des raisons historiques qu'on apprendra, on diagnostiquait cela. Le fils de l'homme né en Israël. Ça va là-bas. Vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que, donc, perçu cela, ça passe par l'histoire d'Israël. Bien. J'ajouterai peut-être encore un. Si vous voulez.
L'histoire de la Torah commence où ?
L'histoire de
la Torah.
Alors, prenez le régime. Et je vous montre le
verbe.
Quoi l'histoire de la Torah ?
Je veux dire, la Torah commence où ?
Au premier homme. Je vous fais un autre schéma pour bien vous faire comprendre. Tout ce problème de la quantité de temps, tout ce problème de la quantité de temps, c'est la quantité de temps que chaque école évolutionniste a besoin pour rendre compte de la transformation qui ne s'observe pas dans notre échelle de temps. Elle dit non, il a fallu des milliards d'années pour faire ça. Vous voyez ? C'est un peu de la question de tout à l'heure qui est confondue. Et vous comprenez, alors, on n'a jamais vu un singe devenir homme. On voit des hommes devenir singes. Ça, c'est une autre histoire. Mais encore une fois, je reviens à ce que je vous dis, parce qu'il faut comprendre les choses profondément, je veux dire spirituellement. Ça m'a beaucoup frappé quand j'ai étudié ces choses-là. Je les ai étudiées là où on les étudie au musée de l'Orient, en anthropologie. Ça m'a toujours impressionné. Qu'est-ce que c'est que ces hommes qui tiennent à se considérer comme des animaux ? Il y a un problème spirituel derrière cette hypothèse de l'évolution. Et alors, c'est ça qui compte. Que la vérité se révèle. Voilà. Un homme, c'est un être vivant qui ne s'est pas arrêté au stade de telle ou telle espèce animale. Et non pas un animal devenu homme. C'est tout compté. À quel point c'est simple, mais ça procède d'une mentalité différente. Encore une fois, l'observation des faits étant la même. Et argent à perdre l'émotion de l'entrée. Pas familial, quand j'avais à mesurer le crâne de l'homme de Néandertal, et évidemment j'étais ému, moi j'ai banni mes ancêtres, tu sais, il est peut-être le coup d'un d'avant les choses.
Je
voulais citer
la
restauration
justement de la
question
de la
réponse. Voilà. C'est fait pour parler, j'en ai parlé avec mes professeurs au musée d'anthropologie. Ils me connaissaient pas mystique, quoi. Moi, je leur disais que d'après moi, ils étaient des autres. Je n'avais pas le droit. Et d'ailleurs, j'ai jamais pu passer des examens et multidisciplinaire, parce que moi, à cet âge, j'avais mon frère, j'avais mon ami, et après naïvement, je disais des choses qui pour eux, c'était des marmites. Vous voyez tout ça. Qu'est-ce qui me frappe une chose? Qu'est-ce qui va vous frapper? La quantité de temps à un âge aussi important de la vie, 20, 20, 30 ans, qu'on fait perdre à ses études dans l'université pour la fin des études. Les faire sur les études, je vous le Et alors qu'un enfant en bonne santé mentale, en une phrase, met en question toutes les bibliothèques. Et c'est tellement évident qu'il y avait une contradiction dans l'hypothèse et que l'hypothèse elle-même doit s'expliquer au regard de la crise de civilisation du 18e siècle, au moment de mon rêve la découverte de l'Amérique pour la part des Européens. Je ne sais pas si aujourd'hui, mais je ne parle plus d'un détail. La grande crise de l'Europe, c'est la découverte de l'Amérique. On a découvert un continent qui n'avait pas entendu le message de Christ, c'est la déchristianisation de l'Europe a commencé à prendre. Donc, c'était un mythe. Le fait que le Christ était le fils du Créateur, souvent le garantier, on découvre des continents qui n'ont pas rapport à cette histoire du monde. Vous voyez le premier choc, la l'antipologie de l'eau en Occident. Et le deuxième choc a été la découverte d'autres manières d'être qui ne sont pas forcément des barbares. C'est-à-dire les sociétés du crime, ça a été la grande crise de l'économie européenne. Et c'est là que la théorie de l'évolutionnisme est apparue. Et c'est une théorie raciste. Parce qu'en fin de compte, ça débouche, on a dit mal noir, ça débouche, vous comprenez, ça débouche aux racines européennes, l'évolutionnisme culturel. En réalité, le chemin, je pourrais tout tomber, je vais vous montrer cela. Pas aujourd'hui, parce que j'ai quelqu'un qui m'attend, mais demain, on commencera par là, et je vais vous donner les versets à préparer, c'est ceci. Voilà. Tout se passe comme si il y a un premier effort de l'être humain d'arriver à l'objectif Adam et qu'il n'arrive qu'à être approximatif. En mathématiques, on appelle ça une asymptote. Il n'arrive qu'à être asymptote au logement. Et alors que, d'un point de vue naturel, tout cet effort d'arriver jusque-là s'est arrêté à l'animal le plus évolué. Qui n'est pas le singe d'ailleurs, mais un crocodile qui s'appelle le narge, le serpent de la jungle. C'est ça, je crois, le okay. Et alors, il arrive là, le plus proche, asymptote, il n'arrive pas à l'identité humaine, et puis il redescend. Alors que l'homme est créé à ce niveau-là, avec la dimension de l'homme. Je demande ce qui se passe dans ce relais, que le narge a essayé d'empoisonner l'homme. Parce qu'il y a une rivalité. Et alors ensuite, ce qui est resté dans les traditions des sociétés primitives, je vous le rappellerai, c'est un peu de leur mythologie, du ciel. Et alors ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est cela. C'est qu'il y a, une tentative, reprenant ce schéma, une tentative à partir de la Adama, la terre vivante, d'arriver au Adam. Elle n'arrive qu'au narrage. Et donc là, il y a une solution de continuité entre l'animal le plus évolué et l'homme. Le fait que l'embryologie du corps humain récapitule toute la préhistoire de cette évolutive, c'est parce que l'homme prend le relais là où le narrage n'est pas arrivé à arriver. Et nous verrons que ce narrage pensait, parlait, mais de la pensée, de la parole naturelle, pas humaine. Et là, il y a un relais. Bon, alors, je vous donne les versets que vous avez dit. Le temps qui est dont nous parlons n'apparaît qu'avec la conscience humaine. Le temps est une catégorie de la représentation humaine. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas d'homme qui percevra un phénomène, le phénomène n'est pas dans le temps. Et alors, toutes ces quantités de temps, il y a remarqué que chaque école évolutionniste a son échelle de temps. Pour un, c'est tant de milliards, pour l'autre, c'est tant de millions de milliards, pour l'autre. Chacun avec sa méthode, c'est la méthode du soleil, la méthode d'approvisionnement. Je vais vous donner les recettes à faire pour demain.
Je pensais de la méthode du carbone, du carbone.
Non, je vais donner un exemple, la méthode du radio. Voilà, on a une hypothèse. Il faut tant de temps pour que 1 gramme de radium se transforme en 1 gramme de plomb. Hypothèse de départ. C'est comme ça qu'on observe aujourd'hui. Il faut tant de temps pour qu'un gramme de radium se transforme en 1 gramme de plomb. On trouve dans une roche tant de grammes de plomb. Hypothèse, c'était du radium. Il a donc fallu tant de temps pour que ça devienne du plomb. Cette roche a tant de temps. Tout cela, c'est ce qu'on appelle un temps météorologique. C'est l'hypothèse du savant pour expliquer son phénomène. Si c'est un vrai savant, il ne dira pas qu'il croit que la roche a tant de temps. Il dira que pour expliquer son phénomène d'après les postulats de son observation, il lui faudrait tant de temps méthodologique s'il y a eu un homme pour l'observer. Mais ça, c'est pas dans le temps. Un phénomène est dans le temps, c'est à travers les catégories de la conscience humaine. À partir de quand c'est irréversible comme donnée logique. L'espace et le temps sont des catégories de la perception. Et c'est un peu, mais les choses ne sont pas faites. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est cela. Ne prenez pas les récits que vous demandez. Ne prenez pas les hypothèses explicatives pour la réalité. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est la nature de ces hypothèses ressort d'un problème de civilisation. Ça, c'est contemporain d'une crise de civilisation. Je vais donner les versets et on va voir tout ça. En tout cas, ce qu'on a à l'heure et que je vais vous montrer, c'est cette différence entre les espèces qui sont, du point de vue de la nourriture pour l'homme éventuel, qui sont dans des lignées, comment dire ça, Guillaume ? Dans les lignées, c'est-à-dire, par exemple, l'explosion de la vie, vous avez, je vais ajouter un schéma bergsonien, l'énorme, ici la direction de l'indifférenciation. Et puis, les lignes qui ont explosé de part et d'autre sont arrêtées dans des impasses qui retombent dans ce colis. J'imagine la donner une fois l'exemple d'un obus qui éclaterait, mais chaque fragment de l'obus est lui-même devenu un obus qui éclate. Alors, vous voyez, tout se perd en étincelles, sauf la fusée centrale qui continue. Et alors, vous imaginez s'il y a un arbre qui donne des branches, qui donne des fleurs, qui donne des fruits. Alors, sur toutes les branches, il y a de très belles fleurs, de très beaux fruits, mais qui n'ont pas d'avenir. Et puis, une petite branche, il y a 50 000 légères. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, lorsque une branche a donné sa fleur, elle est très belle, mais elle va mourir dans 3 jours. Et une fleur belle, très belle, mais qui n'est plus que dans le passé de la mémoire de personne, c'est plus vivant. Vous comprenez ce que je veux dire ? La civilisation des pharaons, c'est une fleur très belle, mais elle est morte. Alors que pendant ce temps, il y avait un filet, un hébreu qui est passé sur la branche. Et celui-là, il est vivant. Alors, je vous donne en tout cas les versets. Vous allez prendre chapitre 1, verset 24, 25. 26, 27, 28. Il faut aller jusqu'au verset 31 si vous voulez, mais je vais venir surtout jusqu'au verset 28. Hein? 24, 25, 26, 27, 28. Préparez le contenu des versets. Non, mais on est au commencement. Hein? Bien. Alors écoutez, qu'on se récapitule. Cette famille, vous avez.